Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport. Quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin. C'est votre émission en direct le samedi et le dimanche de 9h à midi. Alors si vous êtes en vacances, profitez bien évidemment de vos vacances. Merci de nous écouter toujours aussi nombreux. Si vous n'êtes pas en vacances, ça arrivera tôt ou tard. Rassurez-vous, en ce dimanche matin, on s'occupe de tout comme d'habitude. Au sommaire aujourd'hui, le PSG champion. Ça y est, c'est officiel depuis hier soir, le 13e titre dans l'histoire du club parisien. Est-ce encore un événement? Ce sera la une des GG dans quelques instants. À 10h, les prises de position de Teddy Riner qui ont pu susciter la polémique, lui s'estime légitime pour s'exprimer. Notre champion français se met-il en danger? Ce sera le bras de fer des GG. Et puis 11h, les Marseillais qui retrouvent le Vélodrome ce soir après une semaine de tensions et des défaites à répétition. Le Vélodrome va-t-il se retourner contre ses joueurs? On se posera la question, donc c'est à partir de 11h. Et puis évidemment, nous reviendrons sur le Grand Prix de Suzuka du Japon ce matin et la première victoire de la saison pour Max Verstappen. Est-ce qu'on peut encore parler d'exploit? On se posera la question notamment avec Jean-Luc Roy, notre spécialiste. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente, vous allez voir, il y a du costaud ce matin dans le studio RMC. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, au début c'était une bête médiatique, maintenant c'est juste une bête. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Bête.
Ah oui, t'es une bête.
Bête. Oh.
Ça va, Chris?
J'ai pas encore la mèche à la Trump, mais je vais la faire venir.
C'est vrai?
Ah ouais, j'aime bien. Je vais me faire blondir un peu les cheveux.
Ouais, et le fond de teint, tu veux devenir orange aussi comme Casimir ou pas?
Par contre, je suis pas encore au golf comme toi. Mais c'est plutôt toi, quand même, le Trump de la rédaction, oui. Quoi.
Alors, sauf
est-ce
que moi.
Est-ce que tu, sur un parcours, tu le battrais ou non?
Lui, il dit qu'il est index 2.
Ouais.
J'ai vraiment du mal à y croire quand je vois comment
attends,
il joue.
Il passe sa vie à jouer. Il met des taxes et il va faire une partie de golf.
Tu sais quoi,
il met des taxes, il va faire une
tu sais quoi
de golf.
Il est imbattable. Tu sais pourquoi il est imbattable? Il y a eu un livre d'ailleurs qui est sorti là-dessus. Parce que c'est un tricheur invétéré et
tu
reconnu.
Tu es en train de parler de l'homme le plus puissant du monde, tu le traites de tricheur.
Bah oui, c'est un tricheur au golf. Enfin, au golf, c'est un tricheur, c'est-à-dire qu'il y a des balles qui tombent de la poche. Il y a les services secrets qui vont chercher les balles en disant non, regardez, elle était là, elle est là sur le fairway. Pas du tout dans les bois. Non, on le connaît.
On le connaît à Trump. comme dirait Denis.
Et on embrasse aussi à Vincent Moscato et Denis Charvet. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, il est pas toujours très bien reçu à New York. Fred Veil, salut Fred.
Salut.
Ouais, ça s'est quand même très mal passé à New York pour toi.
Ouais, alors le pire c'est quand je suis revenu après en vacances et qu'à la douane ils m'ont fait passer plusieurs fois. Alors ils m'ont rien fait, rien n'est rentré en moi, mais ils m'ont quand même mis beaucoup de pression.
D'accord, beaucoup de pression, très bien. Tu veux nous en parler un peu plus ou pas? C'est une douleur ou pas?
Non,
très bien. Une grande gueule qui, comme Donald Trump, il est meilleur en danse qu'en politique. David Douillet, salut David.
Salut, c'est vrai en plus. T'as raison.
Je
suis un artiste.
T'avais fait quoi? T'avais fait une émission, t'avais fait un tour à danser avec les stars, non? C'est ça?
Ouais, c'était. Ils ont appliqué un règlement à la noix. Enfin bref, ils sont piégés eux-mêmes. Tant pis pour eux, ils n'ont pas profité de mes talents.
Qu'est-ce mais bien sûr, c'est un scandale. Faudra en reparler dans cette émission d'ailleurs de ce scandale.
Je le veux, ça
mais
fait.
Oui. On fera un
sûr,
débat. Ça va, mon David? T'es en forme?
Ça va super, je suis en pleine forme. Et puis, comme tu dis, il y a du lourd. Dont un que j'ai connu. Je crois qu'il avait 13 ans, alors il était un peu moins lourd dans tous les sens du terme, mais il s'est amélioré avec l'âge.
Ouais, c'est un bébé, c'est ton bébé, d'ailleurs on va le présenter tout de suite, c'est sa deuxième avec nous, une grande gueule qui, comme Donald Trump, on n'est pas encore sûr de sa reconversion. Fred Le Canu, salut mon Fred.
Ouais, salut.
Attends, le micro. Oh là là là.
Ah, c'est mieux, regarde. Ah oui, tu vois.
Et voilà la faute.
Regarde. Et l'incarnation de ce que j'ai fait dans une carrière, pas grand chose. Comme Donald Trump, surtout, j'ai fait du vent, une vraie trompette. Voilà. Salut David, t'es réveillé ce matin? C'est tôt pour toi, ça. Hein?
Non, mais moi je suis devant le Grand Prix depuis 7 heures, monsieur.
Ouais, t'as un métier, toi. Ouais, t'as un métier,
je suis un pro.
Il faut savoir qu'ils se connaissent très bien. Moi je suis très heureux de vous accueillir tous les deux. On va être au spectacle là, avec Christophe et Fred. On va les accueillir.
En espérant que je reste un peu plus longtemps que David à la danse avec les stars.
Pour toi, c'était un modèle ou pas, David Douillet?
Non, c'est plus qu'un modèle. C'est justement ce qu'on va expliquer avec Teddy. C'est que là, on est sur des personnes qui sont au-delà des modèles. Ce sont des symboles. Et donc, non, David, il le sait. Quand on est un jeune athlète et surtout un adolescent en perdition, ce sont des personnes qui donnent la voie d'une amélioration personnelle incontournable. C'est, les champions sont incontournables d'une progression personnelle. Non, c'est bien plus qu'un.
Donc apparemment, ça devient des adultes en perdition, apparemment.
Voilà, donc ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas où il m'a emmené, mais en tout cas, je l'ai suivi avec beaucoup d'amour.
Et évidemment, on vous attend sur le débat Teddy Riner. On a envie de vous entendre, vous les deux judokas, ouais. Vous qui connaissez évidemment notre champion.
David va commencer. Ouais.
Il est vrai. Il est vraiment sympa dans la vie, David.
Ah non, ouais. Ah non,
la question de fourbe.
Ah non, si, c'est les grandes gueules. Ah non, pas du tout, non.
Pas du tout.
Il est beaucoup plus que ça.
On n'en doute pas, évidemment. Alors c'est l'événement sur RMC cette semaine. Vous allez pouvoir remporter vos places pour le quart de finale de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain Aston Villa. Quart de finale aller, c'est mercredi prochain au Parc des Princes. C'est à 21h. On vous propose, chers auditeurs, de vivre l'expérience RMC. Vous assistez, eh bien, avant le match aux émissions d'RMC, ensuite direction de Parc des Princes pour la rencontre avec la personne de votre choix. Et enfin, vous revenez à RMC dans les coulisses de l'after pour débriefer cette rencontre dès que vous entendrez ceci dans cette émission. À ce moment-là, c'est pas maintenant, hein. À ce moment-là, c'est juste un exemple. Vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Vos places Paris Saint-Germain, Aston Villa se gagnent uniquement sur RMC. Et ben justement, on attaque tout de suite avec le PSG, comme quoi le 13 ne porte pas toujours malheur.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Et l'ouverture du score de Désiré Doué, le centre parfait de Fichac Baratrelli à 54 minutes et 40 secondes. Désiré Doué, l'homme en forme, qui vient placer ce plat du pied au deuxième poteau, 1-0.
Cette victoire avec un but de Désiré Doué à la 55e minute.
Le Paris Saint-Germain qui va soulever son 13e titre de champion de France, 24 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1. Et cette invincibilité qui court toujours.
Tout le monde est ravi de célébrer ce 13e titre de champion de France, le 13e titre de l'histoire du PSG, le 11e sous l'ère Qatari.
Alors ce n'est pas une surprise, hein, on tombe pas de l'armoire comme on dit, mais c'est désormais officiel. Hier, le PSG a décroché le 13e titre de son histoire en Ligue 1, le 7e d'affilée. C'est une habitude de voir les Parisiens lever les bras et le trophée à quelques semaines de la fin du championnat. Cette fois, c'est à 6 journées de la fin, preuve évidemment d'une démonstration de force exceptionnelle cette saison. Le PSG est toujours invaincu en Ligue 1, s'il le reste serait une première dans l'histoire. La musique qui fout les jetons, et cette question. Le PSG champion, est-ce encore un événement ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
C'est un non-événement.
Fred Weiss.
Oui.
David Douillet.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
C'est donc un non ?
Et non.
Et c'est donc un non. Fred Le Canu.
Événement en cours, mais pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Ok, avant de débattre, vous avez beaucoup de choses à dire sur ce thème. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arthur Perrault, présent au Parc des Princes hier soir. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Alors, il n'y avait pas de grandes festivités prévues hier, mais les Parisiens, est-ce qu'ils ont quand même pu fêter ça ?
Oui, dès le coup de sifflet final, le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique s'en lassent. Le technicien espagnol, largement fêté par son groupe, savoure ce moment.
Le match a été difficile et compliqué. Notre adversaire était très bien organisé défensivement, physiquement très fort. J'aimerais rappeler que la saison dernière, nous avons mérité de gagner le championnat. Et cette année, nous avons amélioré notre performance de l'année dernière, qui était déjà très bonne d'ailleurs. C'est une journée très belle et très importante pour tous les supporters du PSG.
Le coach parisien a profité hier soir d'un tour d'honneur pour chanter et danser avec les 48 000 spectateurs du Parc des Princes. Le bilan parisien est impressionnant, 24 points d'avance en tête du classement, 124 buts inscrits en compétition officielle et aucune défaite cette saison. Le capitaine Marquinhos note les changements.
Cette année, il y a un bel ADN des jeux. C'est un jeu qui me plaît, c'est un jeu agressif, c'est un jeu collectif. Peu importe le match, on le sait, on est sûr que l'équipe va se donner à fond 100%. S'il y a un moindre relâchement, le coach il rentre dans le vestiaire et il met l'équipe en place tout de suite.
Mais dans le vestiaire parisien, après Angers, le groupe ne pense qu'à une seule chose, le choc de mercredi prochain en quart de finale aller de Ligue des Champions contre Aston Villa. Le défenseur, Lucas Hernandez.
Pour nous, c'est que le début. C'est le moment le plus important de la saison avec tous les trophées restants à jouer. Du coup, ce soir, on est tout heureux, mais mercredi, on a encore un très gros match pour nous.
Le 13e titre de champion de France de son histoire en poche, Paris change d'objectif principal. Soulever peut-être la première Ligue des champions de son histoire, le 31 mai prochain à Londres.
Merci Arthur Perrault pour toutes ces réactions au Parc des Princes hier soir. Le PSG champion, est-ce encore un événement ? C'est le premier débat ce matin dans les grandes gueules du sport, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est non pour Christophe Sessieux. Pourquoi
ils,
non
ils le disent eux-mêmes, les joueurs du Paris Saint-Germain dans le sujet d'Arthur. Oui, bah c'est bien, c'est super. Mais là, c'est ce qui vient qui nous intéresse. C'est le quart de finale de Ligue des Champions. C'est soulever enfin cette coupe. Ça, ce sera un événement parce que ce serait une première. Et évidemment, c'est ce après quoi court le PSG depuis si longtemps. Remporter le titre, bah c'est quoi? Oui, évidemment, pour les supporters parisiens, c'est sympa. On se fait la fête, on se fait deux bises et on va se coucher. Voilà, c'est pas du tout la frénésie qui s'est emparée. Je suis en train de bosser sur le Rennes qui bat le PSG en finale de Coupe de France il y a quelques années, premier titre depuis 48 ans. Mais c'était l'extase absolue dans toute une région, dans toute une ville. Les mecs étaient en pleurs. Voilà, ça c'était un événement parce que c'était hors du commun et que ça sortait de l'ordinaire. Le PSG qui gagne le titre, c'est magnifique parce que cette équipe, vraiment, moi, m'a plu cette année. L'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe est étonnant et franchement, je pensais pas qu'en se passant de star, elle arriverait comme à faire de telles choses. Mais il n'empêche que c'est pas un événement. C'est plus un événement.
Ok, t'as pas envie de te relever la nuit, quoi.
J'ai même pas regardé le match hier soir, quoi. J'ai lu le journal ce matin. Bon, ben voilà, je suis passé à la page d'après. Quoi.
Et après, tu passes à autre chose. Ok.
Moi, justement, j'ai regardé le match. J'ai regardé les réactions des joueurs. J'ai vu effectivement que ils parlaient déjà de l'objectif suivant, mais c'est normal. C'est ça être un sportif. Un sportif au niveau, c'est tu as des objectifs, tu as accompli le premier objectif, boum, tout de suite tu es obligé de passer à autre chose. Et quand tu dis qu'il n'y a pas une frénésie, c'est assez logique. Qu'ils jouent un match capital dans 4 jours,
t'as pas le temps d'avoir la frénésie. Frénésie des supporters.
Oui, mais les joueurs, les supporters sont déjà sur le prochain objectif et c'est normal. Mais il faut quand même ne pas relativiser un titre de champion. Dès le début de la saison, tout le monde te disait oh, cette équipe, il n'y a pas de star, ça, il ne va rien se passer, ça va être catastrophique. Mbappé est parti, qui va faire les choses.
Autant leur filer directement au début de saison,
on est sur une équipe qui n'a pas perdu en championnat, qui fait un championnat magnifique, qui est parfait dans le jeu, qui est toujours en lice en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est merveilleux. Moi, je suis ravi. Je trouve que c'est un événement. Il ne faut pas banaliser les titres de champion. Je trouverais ça d'une tristesse absolue. Et c'est pas parce que tu as un plus gros budget que tu as une meilleure équipe. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe.
Non. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bien sûr, Fred. C'est pas comme ça que ça se passe.
Est-ce que tu as déjà pris un ceinture noire plein fer dans les gencives?
Non, mais c'est Fred,
pas encore. David Douillet. Vas-y, David, réponds à Fred.
Non, mais sans rire, Fred. Fred, non, mais ça. Mais sincèrement, mais c'est pas le plus gros budget. C'est un budget monumental par rapport au reste.
Mais c'est les dollars qui jouent contre les dollars ou c'est des joueurs
mais
qui jouent contre les
dollars
joueurs.
Mais
non, parce que tout le monde nous dit à chaque fois que le championnat a progressé, que Marseille a progressé, etc.
Oui, heureusement qu'il progresse. Mais
ça progresse pas assez vite apparemment alors pour toi.
Mais quand tu peux te payer n'importe qui, le minimum syndical, c'est de gagner le championnat. Et c'est ce qu'ils font, c'est très bien. Attention, hein, que les choses soient claires. Moi, je suis pas anti-PSG, bien au contraire. Et j'aimerais que toutes les autres équipes soient au même niveau financier que le PSG. Et là, tu pourrais avoir un championnat digne de ce nom, avec des équivalences, avec des gens du même niveau et une vraie compétition. Là, c'est pas une compétition. Enfin, faut quand même se le dire. Il y a le PSG et le reste du monde. Et donc, c'est pas un non-événement.
Parce qu'ils jouent bien.
Et
puis, parce qu'ils jouent bien qu'il y a justement deux.
Mais non, mais pas heureusement.
Ça veut rien dire. C'est pas les budgets qui jouent. Qui jouent.
Et t'as déjà regardé regarde un peu la liste de tous les champions dans tous les autres. Tu te rends le Real, le Barça qui écrase les championnats d'Espagne. Tu regardes les budgets. Tu regardes en Italie ce qui se passe. Tu regardes en Allemagne ce qui se passe. C'est toujours les clubs les plus riches qui gagnent la plupart du temps, mais qui gagnent dans d'autres championnats avec moins de marge. En France, il y a un astre, il y a le soleil, et puis t'as les petites planètes qui sont 15 millions d'années-lumière derrière.
C'est pas toujours les plus gros.
Mais en l'occurrence, ça arrive effectivement. Mais encore une fois,
ils n'ont pas perdu.
Mettons en place un système comme une équipe dans ton sport préféré. Là, t'auras peut-être du suspense et t'auras peut-être un champion NBA. Ça, c'est un événement parce qu'évidemment, il y a une espèce d'égalité entre les clubs. Mais là, il y en a pas dans le championnat de France de
football. Tu le vois en Ligue des Champions, ils n'ont jamais gagné. Et là, pourquoi ? Parce qu'ils sont en face de poids lourds
qui ont les mêmes budgets que
qui sont similaires et ils n'ont jamais gagné. Et quand tu dis que la Ligue des Champions ce serait un événement, moi je dis et encore une fois, je suis pas anti-PSG, bien au contraire. Que ça devrait plus être un événement. Ils devraient en avoir gagné déjà quelques-unes. Et ils en ont toujours pas gagné. C'est ça le problème. Voilà. Là, on parle de quelque chose de tangible. Ils sont pas encore
J'espère qu'ils vont gagner cette année, hein. J'espère que ce quart de finale va bien se passer. Mais ils sont pas encore au niveau.
Tu vois, David, tu m'as menti. Tu m'as menti, David. La semaine dernière, tu m'as dit que tu étais un pistiette. C'est faux. Tu restes un pisse-froid.
Ok. Fred Le Canut.
Ouais, je vais essayer de modestement d'élever un petit peu le débat, puisque je vois que je suis avec des gens qui sont dans le capitalisme absolu, qui parlent que d'argent. On va essayer de parler de football. Donc, pour revenir sur la question, est-ce que c'est un événement? L'événement, ça serait quand même qu'ils aillent au bout sans défaite. Et je rejoins Fred sur la notion sportive. Le vrai événement, ça serait d'aller au bout et de gagner ou de ne pas perdre tous les matchs. Ça serait un événement basé sur ce que tu disais, Christophe, sur le jeu collectif. L'événement, c'est d'avoir une équipe où il n'y a pas un immense leader, et l'échec absolu du PSG jusqu'à présent, c'était d'avoir des espèces de stars, de faire un marketing sportif autour de ça, de faire du business autour de ça, alors que là, on a réussi à créer une équipe avec des joueurs et avec cet objectif à la fois de Ligue des Champions et surtout d'invincibilité.
Tu retournes ta veste là.
Je retourne pas du tout ma veste. Je te dis que bah non, si, c'est pas un événement.
Mais bien sûr qu'il retourne sa veste parce que mes arguments sont meilleurs.
Ah, non, je dis que c'est pas un événement la victoire, David. Ce que je te dis, c'est que l'événement, ça serait d'aller au bout et d'écraser justement l'histoire jusqu'au bout.
Ah ouais,
et
de bah gagner. Là, si et tu de réalises gagner. Le triplé incroyable.
Non,
mais c'est la victoire. Non, l'événement, c'est de rester invaincu parce que le titre, c'est le 13e. Bon, ok, ça est déjà fait. On connaît l'histoire. Par contre, la dimension. Le titre, pour moi, n'est pas un événement. Mais la manière, si ça va au bout, de gagner tous les matchs ou de ne perdre aucun match avec un collectif et pas forcément des individus, voilà, comme on l'a vécu par le passé, ça, c'est un événement d'avoir créé un PSG avec un esprit collectif.
Là, ça va être, mais là, c'est peut-être là que ça va être le plus compliqué. Parce que maintenant, ils ont des matchs de Ligue des Champions super importants qui les attendent. Ils savent qu'ils ont déjà le titre. Est-ce que tu vas pas avoir une.
C'est ça
une
le sujet. C'est ça le sujet.
Mais bon. Franchement, mais ils s'en foutent. Il n'y a qu'un but. C'est maintenant, c'est gagner la coupe aux grandes oreilles. Oui. Il n'y a que ça qui les anime depuis.
Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont en perdre parce qu'ils vont réserver leur équipe pour la Ligue des Champions. Ils ont bien raison.
Mais ça a déjà été fait, hein, en France d'être invaincu sur une saison.
Jamais.
Pour moi, ça reste un objectif.
Le record, c'est 32 matchs et c'est Nantes qui l'a fait lors de la saison 94.
Arsenal, c'était quoi 2003-2004 Arsenal.
L'événement, c'est la Ligue des Champions. Regardez, Marseille a gagné.
Mais faire quelque chose qui n'a jamais été fait, David, par définition, c'est un événement. C'est par définition.
Pas au niveau national, des champions de France, on en a tous les ans. Voilà.
Oui, mais
il y a la manière. Il y a la manière et la supériorité dans la longueur. Mais si, dans la longueur.
Il y a la manière, mais j'ai beaucoup de réactions via le Direct Studio qui me dit notamment Sébastien qui me dit non, mais c'est pas la faute du Paris Saint-Germain.
Ils ont fait le job et ils l'ont fait de manière magistrale. Ça, il y a rien à dire là-dessus. Mais il y a une telle différence de niveau avec les autres qui eux n'ont pas fait le boulot. À Marseille, on n'a pas fait le boulot jusqu'au bout. On est en train de complètement gâcher la saison. À Monaco, il y a eu des moments de flottement dans la saison. Ok, mais il n'empêche que Paris qui gagne le championnat, c'est pas un événement, c'est plus un événement parce que les autres sont trop faibles.
Ok, on va poursuivre la discussion dans quelques instants avec les grandes gueules du sport. Il est 9h25, vous écoutez RMC et on parlera évidemment de ce match dans 4 jours, quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Aston Villa. Vous entendrez Marquinhos dans une poignée de secondes et puis restez avec nous. On va aussi débriefer le Grand Prix de Formule 1 ce matin et la victoire, première victoire de la saison pour Max Verstappen. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h28 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec ce matin David Douillet, Fred Le Canut, Fred Weiss, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, restez avec nous, on débriefe le Grand Prix de Suzuka, le Grand Prix du Japon. Troisième acte de la saison et donc la victoire de Max Verstappen. Peut-on parler d'exploit quand on est quadruple champion du monde? On se posera la question notamment avec Jean-Luc Roy. Et puis à partir de 10h, gros débat autour de Teddy Riner. Ça tombe bien, nous avons deux judokas avec nous. Teddy Riner qui s'est exprimé sur différents sujets de société. Se met-il en danger, notre champion français? On se posera la question. Mais restons un instant sur notre débat qui concerne le Paris Saint-Germain, champion donc hier soir, 13e titre de son histoire, le 4e d'affilée. Je disais tout à l'heure, c'est une erreur. On me l'a fait remarquer via le Direct Studio par Frédéric. Non pas le 7e d'affilée, mais le 4e d'affilée. Il y avait 2021.
Ça, c'était une super saison.
Avec la victoire de Lille.
Lille sacrée à la dernière journée avec un point d'avance sur Paris. Là, on avait vibré cette saison-là.
Là, c'était un événement.
C'était un événement parce qu'il s'est passé des choses, quoi. Il y avait du suspense.
Lucas nous appelle au 32-16 supporters parisiens. Salut Lucas.
Salut.
Alors est-ce encore un événement pour toi, supporter parisien?
Mais un titre, c'est toujours un événement. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, un titre, ce n'est pas un événement. L'équipe, il se déchire pendant 34 journées maintenant. Parce qu'avant, c'était 38, 34 journées. Et on veut me faire passer ce titre pour quelque chose de quelconque. Non. Alors oui, il y a le budget. Je veux bien entendre que le PSG a un budget. Bien évidemment, ça joue, mais le budget ne fait pas tout. Je vais vous donner un exemple. En Allemagne, le Bayern a dominé pendant X années parce qu'ils avaient un budget colossal par rapport aux autres. Les autres se sont adaptés et ils ont bien travaillé. Aujourd'hui, le Bayer Leverkusen, c'est 290 millions de budget. On n'est pas loin de l'OM. Le Bayern, c'est le même budget que le PSG. Est-ce que le Bayer Leverkusen se retrouve à 30 points du Bayern Munich ? Non. L'année dernière, ils finissent la saison invaincus. Ils gagnent le titre. Ils vont en finale d'Europa League. Je suis désolé. À un moment donné, c'est pas parce que les autres clubs travaillent mal que quand le PSG gagne quelque chose, ce n'est pas un événement.
En fait, le problème, peut-être, Lucas, et je vais faire partager ta réflexion au GG, le problème, c'est que les autres sont trop vite résignés. Est-ce que c'est ça le souci de notre championnat ?
C'est l'image que ça donne, bien sûr, parce que ça donne l'impression de facilité. Sauf qu'au contraire, ça veut dire que eux travaillent bien, eux font les choses bien, et c'est pas de leur faute si en faisant les choses bien, les autres ne le font pas.
Ce que je veux dire, c'est que est-ce que même dans la tête des autres équipes, bon bah ça y est, c'est au début de la saison, c'est foutu. Alors pour les observateurs, c'est une chose, mais même pour les acteurs, bon, nous on joue la deuxième place, on va pas jouer la première. Est-ce que c'est ça le problème ?
Le problème, c'est la différence de niveau aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a des espoirs en début de saison. L'OM y croit en début de saison.
Tu crois à trois journées, quatre journées, jusqu'au match aller au MPSG. Tu crois plus du tout.
Mais là où aujourd'hui, il y a vraiment une question à se poser, c'est comment aller le chercher. En fait, t'as deux points de vue. C'est soit tu subis et tu dis, de toute façon, ils sont intouchables, on n'y arrivera jamais. Ou alors, c'est qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Parce que tu me feras pas croire qu'il n'y a pas une déperdition quand même dans certains clubs en termes d'économie et d'écologie de financement et de mise en place des joueurs. Il y a quand même aujourd'hui, en fait, c'est pas optimisé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le football français, il y a quand même des actions qui sont faites par des présidents, par des actions, par des gens qui gèrent ces sujets-là, où c'est pas optimisé. On peut encore faire mieux. Et l'idée, c'est si t'as pas de pétrole, faut avoir des idées justement.
Mais mentalement aussi, est-ce que les adversaires sont juste préparés pour jouer la deuxième place, pour jouer l'autre championnat de France?
Ils sont même pas préparés pour jouer la deuxième place. Est-ce que tu vois, l'OM est en train de craquer là, la deuxième place.
Peut-être
qu'on bosse pas de manière assez professionnelle dans ces clubs-là. C'est sûr que quand tu rejettes la faute de toutes tes défaites sur l'arbitrage, comme ça s'est fait à Marseille, à Paris, tu restes focus sur le truc. Mais Paris, on peut rien leur reprocher. Ils ont fait le boulot, ils ont été professionnels jusqu'au bout des ongles tout au long de la saison. Mais moi, je vais plus loin. Non seulement ce titre n'est pas un événement, mais je pense en plus que c'est contre-productif pour l'avenir du football français. On en parlait hier, on écoutait les remarques de certains présidents qui commencent à s'inquiéter parce qu'aujourd'hui, le football français, c'est 400 000 abonnés, je crois, à DAZN.
400 000,
ça,
oui.
Ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, pourquoi ? Parce que, effectivement, peut-être qu'en tout début de saison, jusqu'au premier au MPSG, t'as envie de t'abonner pour savoir ce qui va se passer, pour savoir s'il va y avoir du suspense dans le championnat. Mais au bout de 5-6 journées, tu vois que le PSG s'envole et que derrière, un coup Monaco marche bien, un coup c'est Nice, un coup c'est Marseille. Mais bon, est-ce que t'as envie de dépenser des thunes pour un championnat dont tu sais très bien, tu connais très bien l'issue dès la 10e journée?
Enfin, l'issue sur le titre, mais pas l'issue sur l'Europe.
Mais chacun
a son histoire à rêver aussi.
Oui, non, mais bien sûr.
Regarde, aujourd'hui, la fin de championnat, pour savoir l'Europe, elle est passionnante.
Ouais.
Bah oui.
Oui.
Mais est-ce que ça fait vendre un championnat?
Ça fait moins vendre. C'est les supporters hardcore qui sont super contents d'avoir la Ligue des Champions. Concrètement, t'as envie de gagner un titre. Mais tu vois, moi, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est les clubs qui travaillent pas bien. Nous, on avait le même problème au basket. On avait Monaco au début, qui était un ogre absolu, intouchable. Personne ne pouvait s'en approcher. Sauf que grâce à ça, ça fait une émulation. On a maintenant Villeurbanne qui a un gros budget. Et surtout, le Paris Basketball qui a essayé de se mettre au diapason, à trouver des solutions. Donc, il faut travailler aussi parce que ça doit être une locomotive. Le PSG doit être une locomotive et pour l'instant c'est vrai que c'est pas le cas, pour l'instant c'est juste un ogre.
Ok. Ouais, enfin, il y a qu'un faucon quand tu sais, quand t'as un budget où t'es souvent en déficit, que t'as la DNCG qui est derrière, qui avec son épée de Damoclès en disant voilà attention, si vous faites pas ci, si vous faites pas ça, vous allez être déclassé, reclassé, machin, etc., etc. Tu peux pas embaucher les bonnes personnes. Et je parle pas des joueurs là, hein. Je parle de tout l'entourage, du staff technique, etc. De des gens qui font que un club tourne, à la fois aussi de son marketing. Enfin, tout est vérolé, tout est.
Mais David, regarde à Marseille, il y a au moins 10 personnes dans le staff de Roberto De Zerbi.
Monaco n'est pas embêté par le contrôle de gestion non plus. Ils ont autant de
personnes de qualité. Est-ce que ce sont des personnes de qualité?
Ah, mais c'est un autre problème,
c'est
rien.
C'est les autres qui bossent mal, là, je suis d'accord avec toi.
Tu peux pas embaucher les meilleurs, et donc c'est compliqué.
Non, mais Monaco, ils peuvent embaucher qui veulent, David. Au niveau financier, c'est pas un problème pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent pas à s'installer sur la durée. Ils arrivent pas à être constants tout au long d'une saison, alors qu'ils ont des petites pépites dans leur équipe, des joueurs
surtout,
incroyables.
Est-ce que ces clubs jouent vraiment la première place?
À un moment donné,
on peut parler
que,
de niveau. Oui,
Monaco a un statut complètement particulier. Je veux dire, c'est dur d'être un club pour Monaco, et vous le savez très bien. Est-ce qu'il y a un public?
Ils ont gagné des titres avec les mêmes conditions.
C'est pas Lens, c'est pas Lille, c'est pas le même type, c'est pas la même typologie de club. Voilà, il y a pas un public pour pousser. On connaît l'incidence du public sur la motivation des joueurs. Donc c'est pas tout à fait pareil. Moi, je dis que, en tout cas, pour revenir sur le PSG, c'est le minimum syndical. L'événement, c'est une Ligue des Champions, et ils l'ont toujours pas décroché. Et ça, pour moi, le PSG, c'est un club en échec parce que
ils vont peut-être le faire cette année,
champion
David,
de France. On s'en
ils
fout
vont peut-être le faire mentir dans deux mois.
Ah, j'espère, mais je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite de tout mon cœur qu'il enfin aille se décrocher ce titre. Et d'ailleurs, Fred Le Canu a raison. Ils ont souvent émis cette politique de star, etc., d'individualité dans une équipe, et on voit que ça fonctionne pas très bien. L'individualité tire beaucoup de choses vers elle, empêche peut-être le reste de l'équipe de se coordonner complètement. Quand il y en a moins, on voit qu'il y a une équipe qui est beaucoup plus soudé.
Et quand t'as un bon entraîneur aussi qui tient tout le monde.
Donc, je comprends entre les lignes que vous êtes en train de me dire que même avec ce titre, même avec une finale de Coupe de France qui va arriver face à Reims, même avec un quart de finale de Ligue des Champions, alors que c'était une année de reconstruction, sans Kylian Mbappé, le PSG n'a pas encore réussi sa saison.
Moi je pense le contraire. Je défends le contraire. Parce que justement, ils ont réussi leur saison, ils ont réussi leur transition, ils ont une équipe qui joue bien, qui fait plaisir à voir, qui est encore en Ligue des Champions. Moi je trouve
t'es en quart de finale Ligue des Champions, finale de la Coupe de France. Ils ont réussi la saison.
Le PSG réussira sa saison lorsqu'il gagnera la Ligue des Champions.
Non, mais là, ils ont réussi aussi. C'est exceptionnel s'ils sont champions d'Europe.
Ils ont réussi aussi dans le jeu. Ils ont réussi dans cette capacité à créer un collectif.
Vous êtes des petits joueurs, vous avez manqué d'ambition, messieurs.
Justement, pour parler d'ambition, David, comme je sais que tu as beaucoup d'ambition, l'ambition, elle doit venir aussi des clubs qui sont derrière le Paris Saint-Germain. Et tu parlais de Lokomotiv, Fred, c'est ça l'objectif. C'est soit résignation, soit créativité. Aujourd'hui, il n'y a pas 10 milliards de sujets. C'est soit tu trouves une solution et ça va passer par la créativité. Parce que là, il y a clairement une question d'argent et une question de dimension économique. Donc, il va falloir trouver des choses, des axes nouveaux, avoir de la créativité, repartir sur de la formation peut-être. En tout cas, il va falloir changer les choses. Ou alors, c'est résignation et on attend son tour et ça passera jamais.
Et on finira toujours deuxième.
Exactement.
Jusqu'à ce que les Qataris se retirent.
Je reste sur mon idée de réussir ou pas sa saison. Il y a Lucas qui est toujours avec nous au 32-16. Lucas, le supporter parisien, le PSG a réussi sa saison ou pas?
Mais bien sûr s'il a réussi sa saison, parce que déjà, en début de saison, on nous faisait croire que l'Olympique de Marseille pouvait gagner le championnat. Donc, à partir du moment où vous aviez ce discours-là en début de saison, c'est pas parce que là, on écrase. On a des joueurs où on a eu, excusez-moi, c'est la première saison, enfin, ça fait deux saisons, où on a des idées sur les joueurs. Comment fait Benfica? Comment fait l'Ajax? Comment fait le Sporting pour avoir les pépites qu'ils ont? Eh ben, ils vont chercher, excusez-moi, moi, je suis agent et conseiller sportif. Vous parlez de Monaco. Je suis conseiller de deux joueurs de Monaco, deux jeunes joueurs. Alors, je vous dis, ils passent une saison difficile et compliquée parce que Monaco les a prêtés à un de leurs clubs qui est le Cercle de Bruges. Les deux joueurs jouent moins que certains joueurs qui ont moins de talent qu'eux. Mais vous pensez que dans la tête, je leur mets que c'est normal, que c'est pas normal. Je leur dis, travaillez plus. Et on travaille sur les faiblesses. À côté, on met un préparateur physique. On a des gens. Les clubs ne veulent pas bien travailler. Je suis désolé, les clubs travaillent mal. Aujourd'hui, en France, on a un problème. Et ce problème-là, c'est... Mais parce que, excusez-moi, je vais vous donner un exemple. Là, je suis un joueur qui s'appelle Charles...
Non, mais arrête de donner des exemples. Explique pourquoi ça travaille mal. C'est ça qui est intéressant.
Ça travaille mal parce qu'on ne donne pas la chance à certains joueurs. C'est pour ça que j'allais vous donner cet exemple-là. Il y a Charles Ampos Costoulas qui joue actuellement à l'Olympiakos. C'est un top player pour moi en devenir... Il a 17 ans. Pourquoi on va pas miser sur joueur? On va attendre qu'il vaille 30 millions d'euros, 40 millions d'euros pour dire, ah ouais, on aurait dû aller le chercher. C'est ça le problème. On donne pas la chance à certains joueurs ici en France. Quand on regarde certains joueurs qui sont passés comme Riyad Mahrez, etc., ils ont fait des top carrières, mais ils sont passés entre les mains de certains clubs français. Pourquoi ils ont pas détesté
après,
ça?
Après, à Monaco, pourquoi ils ont fait jouer à Cliouche, Benfica, qui sont tout jeunes, ils leur ont donné leur chance quand même.
Bien sûr, Monaco, c'est à part. Mmh. Mais Monaco, excusez-moi, quand on a la fiscalité de Monaco, on peut se permettre de payer certains joueurs avec le budget qu'ils ont. Je suis désolé.
Donc merci.
Il pourrait se renforcer aussi à ce niveau-là.
Merci Lucas d'avoir été avec nous, d'avoir composé le 32-16 et de nous avoir donné ton éclairage. On va écouter Marquinhos hier en conférence de presse devant les journalistes. Évidemment, maintenant, c'est objectif Aston Villa dans 4 jours.
Maintenant, il faut se focaliser sur les objectifs qu'on a encore dans cette saison. La Champions League, il y a la finale de Coupe de France, il y a des records aussi à aller chercher, il y a des choses à nous motiver. C'est une fin de saison très excitante. On voit la communion avec les supporters. De moins en moins, le temps y passe, de moins en moins de temps tu vois, pour aller chercher des objectifs. Et c'est pour ça que je me focalise vraiment sur cette saison. Champion, mon frère.
Et voilà, il l'a dit, champion mon frère, une célèbre réplique hein, avec Lucas à l'époque pour Marquinhos qui décroche un nouveau titre de champion de France. Évidemment, on suivra hein, cette rencontre PSG-Aston Villa mercredi soir sur RMC, c'est à 21h et sachez que dans cette émission, on vous fait gagner vos places pour PSG-Aston Villa, vous venez vivre l'expérience RMC. Dans cette émission, à un moment donné, il y aura la musique de la Ligue des Champions. À ce moment-là, il faudra s'inscrire. Soyez bien présents avec nous jusqu'à midi. On va se retrouver dans quelques instants pour tout autre chose. C'était ce matin, c'était tout frais, c'est tout chaud, la victoire de Max Verstappen au Grand Prix du Japon. Première victoire de la saison. Est-ce qu'on peut parler d'exploit? Oui, Christophe.
L'événement du jour. Tu sais ce que c'est l'événement du jour?
Je crois que c'est de la bicyclette.
Oui, c'est un peu de la bicyclette. Ouais. Ça, c'est un vrai événement. Ça, c'est autre chose.
On en parlera, évidemment.
Le Tour des Flandres.
Dans cette émission.
C'est pas d'accord, David?
Laisse pas dire ça, David. Défends le beefsteak, David.
Non, mais je suis d'accord, mais...
Pogacar, Van Der Poel. Ça va être incroyable cet après-midi, ce Tour des Flandres, évidemment. On en parlera dans cette émission. On en a déjà parlé hier avec Marc Madiot. Restez bien avec nous. À tout de suite pour la Formule 1.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Et avec Christophe Cessieux, Fred Weiss, Fred Le Canu, David Douillet. Ce matin, gros débat dans 15 minutes. À partir de 10h, on parlera de Teddy Riner et de ses différentes prises de position sur des sujets de société. Lui, il s'estime légitime pour s'exprimer. Notre champion français se met-il en danger? Sachez qu'on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous pouvez aller voter. Pour l'instant, c'est du 55-45, 55% oui, il se met en danger, évidemment, on en parle à partir de 10h. Mais tout de suite, direction le Japon.
Les feux s'allument, à l'extinction ça va être parti. Est-ce que Verstappen va être en mesure de conserver sa pole position juste devant la McLaren? A priori oui, il vient couper la trajectoire et venir à l'intérieur. On voit que la piste est toujours humide par endroits. Verstappen a réussi son départ. Verstappen est en mesure là de remporter dans quelques secondes maintenant la 64e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. C'est un exploit hein, vraiment de Verstappen, là voilà, qui termine maintenant et qui franchit le drapeau à damier. Superbe victoire, la 4e victoire pour lui consécutive sur ce tracé de Suzuka. Les deux McLaren de Norris et Piastri à ses côtés, la Ferrari de Leclerc 4e et puis les deux Mercedes de Russell et Antonelli. Hamilton termine 7e devant Hadjar 8e.
Max Verstappen a donc remporté il y a une heure son premier Grand Prix de la saison. C'est au Japon, à Suzuka. Le pilote Red Bull a résisté au McLaren. Et vous l'avez entendu hein, dans le commentaire de Jean-Luc Roy, que l'on va accueillir dans quelques instants. Il parle d'exploit pour un pilote qui vient de remporter pour la 4e fois ce Grand Prix, pour un pilote quadruple champion du monde, pour un pilote qui signe sa 64e victoire en carrière. Alors cette question pour vous les GG, peut-on parler d'exploit vraiment quand Max Verstappen s'impose, oui ou non, Fred Le Canu?
Ah bah non.
Fred Weiss?
Non, pas vraiment.
Christophe Cessieux?
Je pense que oui.
David Douillet?
Les deux Fred n'y connaissent vraiment rien. Bien sûr que c'est un exploit.
Bien sûr que c'est un exploit. Eh ben, on va accueillir juste Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, et salut JC, bonjour à tous.
Garde tes arguments, tu vois que tu fais pas l'unanimité dans le studio RMC. Déjà, pourquoi c'est un exploit, David Douillet?
Ben, parce que en fait, la course est jouée hier. Au calife. Et l'exploit, c'est Max Verstappen qui l'a fait parce que dans le dernier tour, sur un seul tour, il réussit à choper la pole devant Norris et Piastri. Voilà. Et par rapport à la voiture qu'il a, par rapport aux soucis de démarrage de cette saison, pour régler sa voiture qui est difficilement conduisible. La preuve en est, c'est que Liam Lawson en a fait les frais. Et aujourd'hui, Yuki Tsunoda, qui a pris la place de Lawson dans la deuxième voiture des Red Bull, se retrouve relégué au fin fond de la grille. Eh ben, l'exploit, oui, c'est d'avoir poussé au maximum une voiture qui est pas encore très peaufinée et d'avoir obtenu cette pole. Il y a que Verstappen qui était capable de faire cet exploit et donc de conserver ça aujourd'hui en course. Il aurait pu avoir des cartes rabattues parce que moi je me suis fait de bonheur pour garder ce Grand Prix parce que il y avait des risques de pluie et on sait que quand la pluie est là tout peut arriver. Voilà, on peut tout redéfinir. Il y a des risques insensés et donc ça aurait pu être un Grand Prix complètement dingue comme le premier de la saison. Mais ça n'a pas été le cas. Donc il a fait sa course en tête. On connaît le sang-froid et le talent du Hollandais qui a su mener sa voiture, mener ses pneus jusqu'au bout sans crainte. Et puis avec, je trouve, une écurie McLaren que je reproche très timide, trop timide, parce que on a vu un Piastri qui était en troisième position, qui tournait un peu mieux que Norris, et ils ont pas pris la décision de laisser la place, ouais, à Piastri pour aller essayer de chercher Verstappen. Ils ont joué la sécurité. C'est dommage parce que le Grand Prix était fade, insipide, ouais, alors que les qualifs ont été extraordinaires. Ouais, voilà.
Moi, quand je pense que Jean-Luc Roy m'a dit, faut à tout prix que tu te lèves à 7h du mat, ça va être un Grand Prix extraordinaire. Merci. La prochaine fois, je dormirai un peu plus.
Jean-Luc Roy aura beaucoup de choses à vous dire et à vous répondre, j'imagine, dans quelques instants. Mais déjà, les deux Fred, vous avez été interpellés, par David, Vous n'y connaissez rien. Voilà. C'est pour ça que vous dites que ce n'est pas un exploit.
Ravi d'apprendre au contact de David Douillet.
Fred Le Cagnard.
Oui, j'ai écouté les arguments de David. Bon, je avoue que c'est pas beaucoup plus clair pour moi. Ce que je veux
surtout. T'as rien écouté alors.
Ce que je veux surtout te dire, David, c'est que quand même 13e titre du PSG, c'est pas un événement. Par contre, une victoire au Japon pour quelqu'un qui a déjà été 4 fois champion du monde, et ça c'est un exploit. Avec une voiture qui a été faite pour lui. Je veux dire, à un moment donné, on dit, ouais, le Paris Saint-Germain, regarde, ils ont une équipe hors du commun et tout, c'est facile. Lui, il a sa voiture qui est faite à sa mesure. Elle est faite pour lui, pour ses conditions, ouais, à lui, il gagne.
Elle fonctionne pas.
Elle est à sa dimension, il la met au niveau maximum et il gagne. Et tu me parles d'exploit, David. Franchement, il n'y a pas un événement pour leur 13e titre et il y a un exploit pour une victoire au Japon. C'est parce que c'est le Japon que tu dis ça. C'est ton côté japonais.
Non, pas du tout.
Elle est là, la vérité.
Non, mais il y a deux choses dans l'argumentaire de David que moi j'ai écouté, David. Alors effectivement, je n'ai pas beaucoup plus appris non plus, mais je t'ai écouté attentivement et tu dis, seul Verstappen était capable de le faire. Ben donc c'est pas un exploit parce que Verstappen il est 4 fois champion du monde. 4 fois il a gagné le titre de champion du monde. C'est la 4e victoire de Verstappen au Japon. Donc c'est pas un exploit qu'il est capable de faire. Ensuite, t'as dit que McLaren avait un petit peu levé le pied derrière pour ne pas prendre de risques. Ben donc c'est pas un exploit vu qu'ils ont levé le pied. Tu le dis toi-même. Donc j'entends un argumentaire. Si t'as deux arguments qui disent que finalement c'est assez logique.
Si tu m'avais écouté, j'entends que la voiture n'est pas magnifique.
Non, si tu m'avais écouté, par contre, elle est effectivement faite pour lui. Donc à partir de là, c'est pas un exploit.
Mais la voiture n'est pas encore au top,
mais c'est un coureur fantastique qui connaît très bien ce Grand Prix du Japon. J'ai dit que l'exploit avait eu lieu au qualif. Pas aujourd'hui. Il a fait le job.
Non, moi, je trouve que c'est un exploit parce que ce garçon, tu lui filerais une deux chevaux, il serait capable de battre tout le monde en Grand Prix. Et cette année, on disait Verstappen, il va passer derrière. Les McLaren sont hyper plus fortes. Hamilton va remporter 15 Grands Prix parce qu'il a une Ferrari. Rien du tout. Il y en a toujours un qui est toujours devant. Tu lui mets une voiture que personne d'autre ne sait conduire. Il termine devant tous les autres et c'est le meilleur pilote de la planète et ça personne ne peut dire le contraire. Il est extraordinaire. Moi, il me fatigue. Je préférerais voir un Leclerc, même un Hamilton, un Hadjar qui termine 8e, lui damer le pion. Il est exaspérant. Il a un côté avec une morgue terrible, mais c'est le meilleur pilote du monde et il y a rien à dire là-dessus et il le prouve justement sur un grand prix comme ça avec une voiture qui est moins performante que les autres ils sont tous derrière quoi.
Donc le meilleur pilote du monde fait un exploit, gagner un grand prix quoi, pour résumer.
Bon, vous avez bien compris.
Mais c'est très bien. Je vais t'expliquer la Formule 1, il y a un pilote, il y a la mécanique. Et la mécanique est souvent qui est plus importante. C'est lui qui l'a adapté et qui a son fer. Donc voilà, c'est comme si toi tu avais
C'est pas un fer à repasser non plus sa voiture.
Regarde où était Lawson la semaine dernière et tu verras si c'est pas
fait.
Mais elle est pas faite pour lui, c'est lui qui a réussi à en tirer la quintessence.
Donc,
voilà.
Donc, en
Formule 1, donc, tu vois, c'est pas comme dans ton sport de basket où il faut mettre des paniers des ballons dans le panier. Là, c'est une alliance totale entre la mécanique et le pilote. Et ben, lui réussit à mieux que les autres.
Parce que c'est le meilleur.
Alors, justement, meilleur. Son coéquipier Tsunoda, c'était son premier voiture. Grand Prix. Tsunoda a terminé 12e et Lawson, qui a été rétrogradé, lui a terminé 17e. Et donc, Max Verstappen s'est imposé au classement des pilotes. Lando Norris est toujours leader avec 62 points, Verstappen est juste derrière 61 points. Donc, on s'apprête à une bataille fantastique. Alors, vas-y, c'est à toi, Jean-Luc Roy, de défendre ton beefsteak et essayer de répondre aussi aux deux Fred.
Oui, bah écoute, d'abord les arguments développés par David et Chris sont excellents, bien évidemment, parce que l'élément en Formule 1 qui est très important,
c'est pour ça, c'est pas très joli quand même de donner les bons points à ceux qui donnent qui disent la même chose que toi.
Non, mais
moi j'ai trouvé parce que
ce que vous me demandez, c'est de développer, donc je vais le développer. En Formule 1, la monoplace, je suis parfois vraiment désolé de le dire, mais c'est 70 à 80% du résultat. Ça dépend des circuits. Mais ça veut dire que forcément les meilleurs pilotes recueillent les meilleures voitures, ou plutôt développent les meilleures voitures, comme ça a été exposé. Effectivement, la voiture, il l'a faite à sa main pour en tirer le meilleur, mais ça n'est pas la meilleure. Justement, les McLaren sont vraiment devant, et je vous laisse imaginer s'il pilotait une McLaren, avec combien d'avance il aurait gagné ce Grand Prix. Alors oui, c'est le meilleur pilote du monde, on va me dire, c'est normal qu'il gagne, mais c'est pas normal parce qu'il n'a pas la meilleure voiture. Et puis effectivement, c'est David et Chris ont souligné le fait que l'exploit en Formule 1, et malheureusement le Grand Prix, là je dois être honnête, il n'a pas été passionnant de bout en bout, même si on a trois pilotes en 2 secondes à l'arrivée. 2 secondes, c'est rien du tout quand même, c'est vraiment, c'est une misère quoi, après 53 tours, c'est vraiment... Et 1h22 pour être précis de combat. C'est vrai que ça n'a pas bougé. C'est vrai que jusqu'au 6e pour être précis, c'est exactement l'ordre de la grille. Alors pourquoi effectivement Verstappen est exceptionnel? Parce que d'autres auraient jeté le manche. Et là, moi je l'ai rarement vu aussi heureux que là sur le podium. Franchement, on aurait dit pratiquement sa première victoire. C'est vrai que des fois il est un peu pas blasé, mais il est réservé, on va dire. Il est pas expansif du tout. Là vraiment, il a sauté dans les bras des mécanos. Il était fou de joie parce que c'est un exploit. Puis alors j'allais dire, c'est un peu comme dans les poulaillers, vous savez, quand tout le monde regarde un coq en disant il est tout petit, il est mité, mais on l'appelle chef. Ben là c'est exactement ça, parce que tous les autres pilotes se sont émerveillés du résultat, à commencer par Fernando Alonso, c'est quand même une petite référence, par quelqu'un comme Damon Hill, qui est maintenant commentateur, et qui l'apprécie pas beaucoup au plan de la personnalité, mais ça c'est autre chose. Il a dit là, il a fait un truc incroyable. Et même Norris et Piastri après ont dit bah oui, c'était, ils savent eux la voiture qu'ils ont, c'était le plus fort, il mérite sa victoire. Ben, donc c'est un exploit.
Justement, on va l'écouter, ouais. Max Verstappen au micro du diffuseur Canal+.
Là, c'était difficile, j'ai attaqué beaucoup, particulièrement sur le dernier train de pneus. Les deux McLaren attaquaient fort derrière moi. C'était fun, pas simple de gérer les pneus, mais je suis incroyablement heureux. On a débuté ce week-end difficilement, mais on a cessé d'améliorer la voiture, et la voiture était au mieux de sa forme aujourd'hui, et ça a rendu possible de la victoire aujourd'hui.
Et voilà, la belle victoire donc de Max Verstappen. Juste vous dire et le signaler, hein, la 8e place d'Isaac Hadjar, le rookie qui signe ses premiers points en Formule 1. Il vient de déclarer tout juste là, j'ai mal partout.
Voilà. c'est un combat, hein.
Le coup broyé. Ouais.
Surtout au Japon,
à Suzuka. C'est un circuit très exigeant. Ouais.
Hein. Et il disait que c'était son grand prix préféré.
Mais Jean-Luc, une petite question. On a vu que le nouveau pilote, le pilote numéro 2 de chez Red Bull ne faisait toujours pas l'affaire. Est-ce qu'il faut que Hadjar aille récupérer la Red Bull? Et est-ce qu'il peut en faire un truc?
15 secondes, Jean-Luc.
Oui, alors ce serait pas un cadeau là. Pour le moment, c'est trop tôt. Franchement, c'est très bien ce qu'il a fait. C'est remarquable. Il a tenu sa place merveilleusement. Il a fait zéro faute. Mais non, c'est pas un cadeau parce que cette voiture est tellement difficile à mener. Et Tsunoda, vous allez voir qu'au prochain Grand Prix, là, c'est dès cette semaine, hein, à Bahreïn, et ça s'enchaîne très vite puisqu'après il y a l'Arabie Saoudite. Vous allez voir qu'il va être, parce que en qualif, il était à un moment 3 dixièmes, hein, en Q2. Donc bon, après il a pas réussi, il s'est loupé dans le premier virage, donc il a pas réussi à boucler un tour complet, mais vous allez voir qu'il va revenir dans les points. En tout
cas. Ok, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix de Bahreïn. Merci beaucoup Jean-Luc Roy d'avoir été dans les grandes gueules du sport ce matin pour parler de la victoire de Max Verstappen. On se retrouve dans quelques instants pour le gros sujet du jour, Teddy Riner, qui s'est exprimé à de nombreuses reprises sur différents sujets. Est-ce qu'il se met en danger, notre champion français? On en parle évidemment, notamment avec David Douillet et Fred Le Canu, qui le connaissent très bien. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.